La parole de Dieu que nous étudierons ce matin se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 19. Après Athènes et Corinthe, Paul poursuit son voyage de retour vers Jérusalem. Paul vient d'arriver à Éphèse et nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 20. Paul se rendit ensuite à la synagogue, où pendant 3 mois il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre en pleine assemblée. Ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples. Il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un certain nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. « Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. » Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Sceva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, « Jésus, je le connais, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous » Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et grecs furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Ce n'est pas que j'aime particulièrement la violence, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'humour cynique dans ce passage. Comme un refrain, dans le livre des Actes, nous apprenons que Paul annonce encore l'Évangile, qu'il se fait encore jeter dehors, et finalement que, encore une fois, des gens se convertissent en masse. Au milieu de ça, un fait divers qui sort de nulle part et qui nous raconte un exorcisme mal orchestré qui finit mal. Regardons le texte avec un peu de hauteur. Nous sommes ici en présence d'un chiasme. Alors vous l'avez vu, j'en suis sûr. On va voir ça. Un chiasme, c'est une figure de style, en miroir ou en sandwich. La forme utilisée par Luc, par l'auteur, est ABCBA. La première et la cinquième partie se répondent. La seconde et la quatrième se font écho. Le terme central, C, est ainsi isolé pour en souligner la signification. Alors, les versets 8 et 9 de notre texte sont notre premier A. C'est là où Paul annonce avec assurance, dans le verset 8, « Mais son message est rejeté par les Juifs et des propos méprisants sont dits publiquement au sujet du Seigneur. » Verset 9. Le verset 10, lui, est notre premier B. Nous retiendrons surtout l'information cruciale « Tous, Juifs et Grecs, entendirent la parole de Dieu. » Des versets 11 à 16, on a la partie centrale, le C. C'est le récit de l'exorcisme raté que je nommerai simplement par l'incident dans la suite de mon message. Suite à cela, le verset 17 et le second B, nous retrouvons en écho du verset 10 la formule « tous juifs et grecs ». Cette fois-ci, c'est pour dire qu'ils furent tous saisie de crainte. Et finalement, concluant le récit, les versets 18, 19 et 20 sont le second A qui est une réponse à l'annonce de Paul des versets 8 et 9, repentance et la parole se répand. Les croyants acceptent le message et se repentent de leur ancienne vie. Il y a un grand respect pour le nom de Jésus qui lui-même est en opposition aux propos méprisants tenus au début du texte. Alors voilà, en survol, on va le voir en détail. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser cette structure pour découper mon message en deux parties. Dans un premier temps, nous regarderons la partie extérieure du chiasme, ABBA, et nous verrons que le croyant sème et que Dieu fait pousser. Dans un second temps, nous regarderons l'incident, la partie centrale, et nous nous demanderons si la prière, c'est magique. On y va ? À sa conversion, Paul a changé la première lettre du prénom de Saul par celui de Paul. Quand je lis la fin du livre des Actes, cette lettre P, pour moi, c'est celle de la persévérance. À chaque fois qu'il arrive dans une ville, il vient annoncer l'évangile dans la synagogue et il se fait chasser par les Juifs, à chaque fois. Depuis le chapitre 16, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe et maintenant Éphèse. À chaque fois, il reçoit une opposition. Pourquoi persévère-t-il ? Qu'est-ce qui le motive à recommencer encore et encore ? Les rejets qu'il reçoit sont-ils vraiment des échecs ? L'auteur nous raconte que, dans un premier temps, dans le chapitre 18, Paul a reçu un bon accueil dans la synagogue d'Éphèse. De retour sur ce lieu, Paul commence par annoncer avec assurance le message de Dieu. Ça, c'est le début de notre texte. En réponse à ça, il nous est dit que le cœur d'un certain nombre de Juifs s'endurcissait. Ce rejet fut tel que publiquement, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. En réponse à leur réponse, Paul fait ses valises, prend les disciples avec lui et va les enseigner à part durant 2 ans. Nous retrouvons cet enchaînement d'actions et de réactions au verset 8 et 9. À partir de là, à partir du verset 10, le texte ne fait plus mention de Paul comme un acteur du récit. L'auteur fait un zoom arrière, un saut dans le temps. In fine, ce que nous retenons de cela, c'est que durant cette période, tous, juifs et grecs, ont pu entendre le message de Christ. Et ça, c'est au verset 10. Les versets 11 à 16 étant ceux du récit de l'incident, je les mets de côté et on les verra dans une seconde partie. Verset 17. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent saisis de crainte et le nom du Seigneur fut l'objet d'un grand respect. Nous retrouvons ici, mot pour mot, la même formule qu'au verset 10. Tous, Juifs et Grecs. C'est la partie B de notre chiasme. Luc utilise cette structure pour mettre l'emphase sur la corrélation entre les deux faits. D'abord, tous entendirent la parole de Dieu. Ensuite, tous furent saisis de crainte et eurent un grand respect pour Jésus. Le lien, c'est la cause et la conséquence. En effet, s'ils n'avaient pas entendu la parole de Dieu, pourquoi auraient-ils su qu'il fallut craindre de respecter Jésus par rapport à ce qui venait de se passer ? Nous retrouvons la même cause-conséquence aujourd'hui. Tout le monde maintenant a entendu parler du réchauffement, ou plutôt du dérèglement climatique. Malgré les différents rapports scientifiques, tous n'y croient pas. Il existe des climato-sceptiques. Cette année, les Américains ont vécu un des pires hivers depuis longtemps. En France, nous subissons des canicules difficiles. Je crois que dans la conscience du plus grand nombre, ces deux événements viennent faire prendre conscience du dérèglement du climat annoncé précédemment. Si personne n'en avait parlé auparavant, Combien on aurait imaginé un lien entre ce climat bizarre et le dérèglement climatique global? Il y a toujours eu des années records. Records de chaleur, records de précipitations, records de sécheresse, etc. Pour autant, des études avancent l'idée qu'avec le dérèglement actuel du climat, nous devrions à l'avenir avoir plus de températures extrêmes prochainement que ça a été le cas au siècle dernier. C'est entre autres pour cela que des associations écologistes tirent la sonnette d'alarme en ce moment. À Éphèse, c'est Paul qui alerte la population locale. Comme nous l'avons vu au début du texte, il annonce Christ, puis enseigne des disciples. L'objectif de son travail, c'est le chiasme qui nous indique où le trouver. La réponse à l'annonce de Paul, c'est la repentance. Il y a urgence à changer de vie. À cette époque, Éphèse, c'est un peu comme Poudlard pour Harry Potter. La magie est monnaie courante. En brûlant leur livre de magie, d'une part, les nouveaux croyants disent au revoir à leur ancienne vie, et d'autre part, si on repense au rôle de la magie, ils remettent au centre la puissance de Dieu seul pour leur vie. Nous avons donc une progression qui apparaît entre le début et la fin de notre texte. Annonce vers repentance. Et qu'avons-nous au milieu ? Dieu agit. J'avais rapidement fait mention tout à l'heure que Paul n'apparaissait plus comme un acteur du récit, dès le verset 10. À juste titre, puisque c'est Dieu qui prend le relais. Le job, la mission de Paul, est terminé. Il a annoncé, il a enseigné. La repentance du peuple viendra après les actions de Dieu, à savoir les miracles qui sont annoncés au verset 11 et 12. L'annonce du message de Christ, que ce soit par annonce publique ou par enseignement d'un groupe, fait que tous ont entendu. Le rejet des Juifs n'est finalement pas un échec, mais un obstacle. Cet obstacle fait que Paul change de plan. Il n'annonce plus publiquement dans la synagogue, mais il enseigne. Alors tout comme Paul, nous sommes aussi appelés à persévérer dans notre mission d'annoncer Christ. Si sur un terrain particulier, ça ne fonctionne pas, nous pouvons peut-être le faire autrement. Le but est de faire, au final, grandir l'Église, que ce soit en visant une croissance démographique ou une croissance qualitative. Il nous revient la responsabilité de rester en mission, tout en passant de l'un à l'autre, en fonction des situations ou des opportunités. Et aussi, il faut noter que les fruits ne sont pas forcément visibles tout de suite, comme on l'espérerait. Il est nécessaire que Dieu agisse pour provoquer des réactions chez l'auditeur. La repentance des Éphésiens n'est venue que deux ans après l'annonce de Paul dans la synagogue. Dieu agit en son temps. Ce temps n'est pas le nôtre, et ça nous demande d'exercer notre foi à la persévérance. Comme je l'avais annoncé, j'ai gardé la partie la plus croustillante de notre texte pour la seconde partie du message. Il s'est passé quelque chose de fort pour amener les Éphésiens à la repentance. Qu'est-ce qui les a motivés dans un tel changement ? Un rôliste, c'est-à-dire un joueur de jeu de rôle, qui lirait ce texte, s'écrirait « Fumble !» Alors, pour les néophytes du jeu de rôle, un fumble est une conséquence d'une règle qui consiste, quand le résultat de jet est particulièrement mauvais, à le considérer comme un échec catastrophique, qui lui provoquera des conséquences plus graves qu'un simple échec. Alors, voyons ce que nous avons ici. Pour commencer, l'auteur nous dit que Dieu faisait plein de miracles au travers de Paul. Du coup, quelques exorcistes juifs qui ont vu ça se sont dit que la formule de Paul fonctionnait plutôt bien et qu'ils allaient l'essayer. Ils vont voir une personne possédée par un esprit mauvais et disent « Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, je vous ordonne de sortir. » Et là, premièrement, c'est un échec, car l'esprit mauvais n'est pas du tout sorti de l'homme. Mais deuxièmement, échec critique, car l'esprit mauvais leur a répondu « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Sans attendre la réponse, l'homme possédé à 1 contre 7 les attaque et les maîtrise avec une telle violence qu'ils s'enfuirent, nus et blessés de l'endroit où ils étaient. Alors visiblement, cette histoire a fait grand bruit, au point de créer, d'une part, un grand respect pour le nom de Jésus et d'autre part, la repentance des croyants. Ça, c'est dont je parlais dans la première partie. Alors, pourquoi, selon vous, la formule des exorcistes n'a pas fonctionné ? Le nom de Jésus, c'est bien. C'est pas rien, quand même. Bien sûr que le nom de Jésus, c'est puissant. Jésus disait lui-même en Jean 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Si Jésus l'a dit, je crois que c'est la vérité. Par contre, pour ces Juifs, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose d'autre. À Éphèse, la magie est présente. Par contre, la prière, elle, ce n'est pas de la magie. La prière, c'est un dialogue à prendre réellement au sérieux. Et là, la réponse de l'esprit mauvais est particulièrement lourde de sens. Elle met l'accent sur ce qui manque aux Juifs. Ils n'ont pas la foi en ce Jésus dont ils veulent utiliser son nom. C'est par cette foi que Paul fait des miracles, et non par une formule magique. D'ailleurs, le texte ne nous dit pas que Paul fait des miracles, mais que Dieu fait des miracles au travers de Paul. Les rôles ne sont pas les mêmes. Le détenteur du pouvoir n'est pas le même. C'est bien Dieu et Dieu seul qui est puissant. Sur ce principe, la formule « au nom de ce Jésus que Paul » est à côté de la plaque. Elle ne fait pas mention d'une foi personnelle. Elle fait mention de celle de Paul et de la relation qu'il aurait avec un certain Jésus. Alors je vais même plus loin. Pensez-vous que la phrase, même correctement formulée, « au nom de Jésus » est puissante ? Oui, Jésus est puissant, mais la formule ne l'est pas. Et si j'arrêtais la prédication ici, nous serions bien embêtés, car d'un côté, Jésus nous dit de demander en son nom, et d'un autre côté, dans ce texte, ça ne fonctionne pas. Il faut reconnaître que nous ne savons pas prier. Il nous faut reconnaître qu'une prière n'est pas moins valable si elle ne se termine pas par « au nom de Jésus, Amen ». Une bonne prière, Jésus nous en donne une comme exemple. C'est le Notre Père. Cette prière n'est pas une énième formule, c'est un modèle. Afin de nous l'approprier et de rechercher à prier comme Jésus nous le conseille, regardons-la. Nous pourrions faire, j'en suis sûr, une seconde prédication rien que sur cette prière. Donc, je vous prie de m'excuser si vous restez sur votre faim. Nous allons seulement la survoler. Je la lis volontairement dans la version du Semeur qui a fait quelques choix différents de traductions qui seraient plus connues. Vous verrez. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Alors elle commence par, ici, des salutations très respectueuses qui rendent gloire à Dieu pour sa personne. Ensuite, viennent les demandes à Dieu. Première demande, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. » Les deux parties de cette phrase veulent dire la même chose. C'est très intéressant de voir que la première chose que Jésus nous demande de demander au Père dans nos prières, c'est que sa volonté soit faite. Alors, si nous sommes victimes d'une injustice, il me semble que c'est une bonne chose pour nous que la volonté de Dieu soit faite, car nous savons qu'il est juste. Par contre, dans combien de cas cette demande est à double tranchant? Avons-nous toujours envie que la volonté de Dieu soit faite, tout en sachant qu'elle sera peut-être différente de la nôtre? Cette demande, finalement, correspond à laisser Dieu tout diriger. Seconde demande. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. C'est ici la seule demande d'ordre matériel de la prière. Avec les mots « aujourd'hui » et « besoin », il y a une forme de dépendance à Dieu. Elle ne demande rien de plus que de quoi vivre jusqu'à demain. Cette demande, c'est le rappel à Dieu de la promesse qu'il a fait de prendre soin de nous. Il faut tout de même noter que le mot « besoin » est utilisé et non le mot « désir ». Cette différence mérite d'être méditée pour la construction de nos prières. Troisième demande. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts envers des autres envers tous. Jésus rappelle le pardon offert par Dieu et en même temps nous demande de faire de même autour de nous. C'est ici, je crois, un encouragement à comprendre et profiter pleinement du pardon de Dieu et en même temps un encouragement à progresser dans notre amour du prochain. Encore une fois, cette demande, c'est le rappel d'une promesse, celle du pardon et de la grâce de Dieu envers nous. Quatrième et dernière demande, garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Cette demande rappelle à Dieu notre humanité et lui demande humblement son aide. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que dans les moments durs, il ne nous laisse pas tomber, qu'il nous soutienne et nous délivre. Dieu nous a promis qu'en Jésus, nous n'étions plus esclaves du péché. Cette demande se base sur cette promesse, mais elle va plus loin, car nous l'expérimentons chaque jour, nous continuons d'être en conflit avec le péché. Cette demande fait mention que nous restons humains et que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour nous battre contre le péché. Ces demandes n'ont rien de magique. Ce sont des rappels, des promesses que le Seigneur nous a faites et même pour certaines qu'il nous a déjà données. Est-ce que comme dans cette prière, nous savons prier dans les promesses de Dieu? Qu'est-ce qui nous motive à prier? Est-ce que notre motivation première, c'est comme Paul de faire la volonté de Dieu? Ou est-ce que nous souhaitons déclencher la puissance de Dieu pour arriver à nos fins? Je n'ai pas la réponse. Afin de conclure, rappelons-nous que les promesses de Dieu sont une source inépuisable de prières. Ces promesses nous viennent directement de Dieu et elles sont sûres. Prier n'a rien de magique, mais notre prière peut déclencher la puissance de Dieu pour nous et autour de nous. La puissance de Dieu n'est pas sans conséquence. Paul, lui, en a été bénéficiaire et a fait de nombreux miracles. Et les exorcistes juifs ont fait les frais de se frotter à des puissances célestes sans Dieu à leur côté. Un domaine pour lequel la puissance de Dieu est nécessaire, et donc pour lequel nous devons prier, c'est l'avancée du royaume de Dieu et l'acceptation du message de Christ chez nos proches. Se contenter d'annoncer sans demander à Dieu de faire mûrir le message chez notre auditeur sera peu efficace. Ce n'est pas par nos propres forces et compétences que nous œuvrons pour le royaume de Dieu. C'est avec la toute-puissance du Créateur que nous travaillons pour lui.